France Bleu Paris, découverte. Laurent Petit-Guillaume.
Merci d'avoir choisi France Bleu Paris Découverte, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité des spectacles et des événements sur Paris et la région parisienne. Aujourd'hui, on va vous donner envie de découvrir, si c'est pas déjà fait, hein, l'envie en tout cas, un spectacle qui débute la semaine prochaine au Théâtre des Mathurins, dans le 8e, on est à Paris. Une comédie musicale, un spectacle musical consacré à l'histoire du plus célèbre de nos monuments, la Tour Eiffel. La tour de 300 mètres se jouera donc dès le 21 mars. Un spectacle écrit et composé par Marc de Rennes, avec, entre autres, David Eguren dans le rôle de Gustave Eiffel. Ils sont avec nous aujourd'hui. Bonjour et bienvenue, messieurs.
Bonjour, Laurent.
Tout est dit. Vous avez un peu le trac, là, c'est la semaine prochaine. Hein.
Oui, c'est la semaine prochaine. Oui,
après, c'est normal. C'est normal.
On se prépare petit à petit et on sera prêt et on va faire en sorte que le trac soit sain.
Enfin, de toute façon, il est toujours sain. Alors, que raconte vraiment la tour de 300 mètres? Qui sont les personnages qui jalonnent cette histoire réelle ou fictive? Pourquoi une comédie musicale pour raconter la tour Eiffel? Et qui donc a eu cette idée originale? On veut tout savoir. Alors tout d'abord, messieurs, puisque vous êtes, j'imagine, depuis plusieurs semaines embarqués dans cette histoire, question très personnelle, avant de parler du spectacle, à quel âge êtes-vous monté pour la première fois au premier, au deuxième ou au troisième étage de la Tour Eiffel? Bon, alors Marc, je sais, vous êtes l'auteur des chansons, des textes, des musiques de cette comédie musicale. Voilà. Je ne sais pas si vous êtes né dans la région.
Je ne suis pas né dans la région. Ah. Moi, je suis effectivement l'auteur du spectacle. Je suis né à Dijon,
ouais.
Comme Gustave Eiffel.
Ah oui, c'est vrai.
Né à Dijon également.
Ah mais c'est fou ça.
Voilà. Et je me souviens très bien du premier jour où je suis monté sur la Tour Eiffel. J'avais 6 ans.
Ouais.
Et jamais oublié cette image. Et d'ailleurs, je pense que c'est un peu de ce jour-là où est née ma fascination pour ce monument.
C'était une sortie familiale ou scolaire?
C'est une sortie familiale.
Bah oui, ça on s'en souvient en général la première fois. Bon, et vous David?
Alors moi je suis né dans la région, je suis né à Versailles. Et en fait j'ai toujours connu la Tour Eiffel, j'ai toujours eu la Tour Eiffel en fait dans mon paysage. Alors à savoir à quel âge...
De Versailles où vous habitiez très 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 haut et vous avez une bonne vue.
On le voit de très très loin quand il fait beau. Non, mais après à quel âge je suis monté pour la première fois sur la Tour Eiffel? C'était dans mes premières années et j'en ai pas de souvenir en fait exact.
Mais vous l'avez pas fait 50 fois parce que très souvent c'est vrai que quand on discute entre nous et tout, la Tour Eiffel et les Parisiens, les Franciliens finalement ils ont une fois. Parfois même ils n'y vont pas. Et c'est souvent
vrai.
Effectivement un lieu très très prisé des touristes. Hein. C'est le cinquième monument le plus visité à Paris.
C'est vrai, c'est vrai. Alors la dernière fois que j'y suis allé, c'était il y a un an. Donc voilà. Là, je vais y retourner bien plus souvent avec quelques événements que nous allons faire sur la Tour Eiffel.
Ah ben ça, on va en parler. Voilà. On va en parler. S'il y a un lien, ça, justement, je me posais la question, mais je vous la voulais.
Il y en a un.
Alors je vais reparler de vous, bien sûr, parce qu'on vous découvre. Marc de Rennes, donc vous êtes l'auteur, compositeur des chansons, des textes, des musiques, je veux dire, de cette comédie musicale. Alors, je sais pas, en effectuant des petites recherches sur vous, j'ai aussi trouvé un homonyme médecin anesthésiste. Est-ce que c'est une erreur ou est-ce que vous avez deux vies?
J'ai un peu deux vies.
Ouais. Ah, c'est le même alors?
Ouais, c'est le même.
Voilà, bon, bah, si vous tapez Marc de Rennes sur Internet, vous verrez, il y a de la musique, mais aussi il y a médecin anesthésiste. Ce sont vraiment vos deux occupations?
Ouais, ce sont mes deux occupations.
Bah, très bien, on peut mener deux carrières différentes. David Eguren, vous, la comédie musicale, les comédies musicales, c'est votre parcours depuis quelques années, je crois. Vous avez... Entre autres, fait partie du spectacle Le Roi Lion à Mogador. Ai-je bien lu ou est-ce une défection de mes lunettes quand je l'aimais? Vous auriez joué 1000 fois le rôle de Zazu
Zazu.
Le Roi Lion.
C'est ça, on a fait 3 saisons, on a fait près de 1000 représentations et effectivement j'ai joué près de 1000 fois le rôle de Zazu, effectivement.
Bon, c'est le record, hein, on peut officiellement faire plus.
Alors de cette comédie musicale, c'est pas le record parce que la comédie musicale se joue dans le monde entier.
Oui, mais jouer 1000 fois, pour vous c'est un record.
Voilà, mais pour la France c'est vrai que c'est un record.
D'accord.
Donc voilà, vous êtes très fiers.
Vous avez fait partie également de l'aventure, toujours à Mogador, de La Belle et la Bête.
Tout à fait.
Vous avez participé à la mise en scène de Dirty Dancing il y a quelques années et vous étiez dans la comédie Chance, qui est formidable et qui se joue toujours, notamment en ce moment, au théâtre La Bruyère.
Exactement.
Et ça, c'est vraiment aussi absolument génial.
Ah bah, et j'ai eu la chance de créer le rôle d'Étienne, effectivement, dans cette comédie musicale.
C'est formidable.
C'était un grand moment.
David Eguren, vous êtes Gustave Eiffel dans la tour de 300 mètres. Avant de rentrer dans les détails de ce spectacle, je voulais savoir, ça commence à quelle époque, votre spectacle? Ça commence à quelle époque?
Alors, le spectacle commence... En fait, au tout début de, au moment où on annonce l'exposition universelle, et où Gustave Eiffel a l'intention de présenter un projet pour l'exposition universelle, mais on vient lui dire que ce projet qu'il devait faire ne se fera pas. Donc il lui faut trouver un autre projet. Donc du coup, il va réfléchir à un autre projet et, pour résumer, il va se pencher sur le projet de la Tour Eiffel.
C'est-à-dire que c'était pas vrai, c'est la vérité, hein. ce sont des faits historiques. Là. C'était pas son premier projet.
Alors au départ, c'était pas le premier projet, effectivement. Et il s'est rabattu sur la Tour Eiffel parce que l'autre projet, qui était le canal de Panama, lui a été retiré à ce moment-là.
Bon, très bien. Voyons, on va apprendre plein de choses avec cette comédie musicale. Alors justement, que raconte la tour de 300 mètres? Je rappelle que c'est une comédie musicale qui se jouera dès la semaine prochaine, 21 mars, au théâtre des Mathurins. Qu'apprend-on de la tour Eiffel? On a déjà appris quelque chose d'intéressant. Quels sont les autres personnages qui traversent cette histoire et ce spectacle? On en parle dans 3 minutes.
France Bleu Paris.
Michel Polnareff, la poupée qui fait non sur France Bleu Paris.
France Bleu Paris, découverte.
Avec les antennes, en fait, elle fait 324 mètres de hauteur. Elle domine Paris et elle est l'histoire de Paris. Effectivement, initialement, on l'a surnommée la tour de 300 mètres. Hein. C'est le titre de la comédie musicale qui raconte son histoire. C'est au Théâtre des Mathurins dès le 21 mars. Si vous nous rejoignez, on pourra découvrir certains personnages qui ont fait partie de son histoire. Avec nous aujourd'hui, le Gustave Eiffel de ce spectacle. David Enguren, et l'auteur-compositeur Marc Deren. Bon, alors présentez-nous, effectivement, j'ai dit qu'il y avait d'autres personnages dans ce spectacle.
Oui.
Ont-ils vraiment existé ou pas? Qui vous entoure?
Alors, dans ce spectacle, il y a plusieurs personnages qui, effectivement, ont fait partie de l'entourage de Gustave Eiffel.
Mm-hmm.
On a Sal, qui est un ingénieur qui a beaucoup travaillé avec Gustave Eiffel.
Oui.
sa fille Claire, qui a été très très influente dans la vie de Gustave Eiffel. Ah, oui. Alors Adolphe Salles est joué par Nicolas Soulier.
Oui.
La fille d'Eiffel, qui est donc Claire, est jouée par Juliette Béard.
Exactement.
Voilà. Et nous avons d'autres personnages. Donc ça, c'est les deux personnages qui sont les plus proches, j'ai envie de dire, de Gustave Eiffel. Mm-hmm. Et après, nous avons d'autres personnages qui interviennent. Et en fait, à part Gustave Eiffel, les autres comédiens jouent plusieurs rôles, en fait.
D'accord, oui, j'ai vu ça. J'ai vu que, par exemple, Stanislas Clément jouait Guy de Maupassant.
Tout à fait.
Et un ouvrier, l'ouvrier Vimon.
Exactement.
Mathieu Brugo, lui, il joue Angelo Scagliotti. C'était quelqu'un qui a réellement existé dans l'entourage de Gustave Eiffel.
Alors en fait, c'était un ouvrier qui a travaillé sur la construction de la Tour Eiffel. Il y a beaucoup d'ouvriers italiens en fait qui sont venus construire, enfin qui sont venus sur le chantier de la Tour Eiffel et qui ont construit la Tour Eiffel. Alors lui, il a une histoire particulière, c'est que c'est le seul ouvrier qui est décédé lors de la construction de la Tour Eiffel. Et il est décédé non pas pendant la construction, mais pas pendant ses heures de travail, mais à côté. Parce qu'il est venu faire visiter la tour à son épouse, et c'est dans ce moment-là qu'il malheureusement, il a fait une chute.
Ah mince. Voilà. Ah, oui. Ferdinand de Lesseps, joué toujours par Mathieu et Brugo, et puis Monsieur Bourouet.
Tout à fait.
Donc oui, effectivement. Alors il y a la comtesse de Poix, on va tous les dire, Véronique Atta.
Oui,
il y a Amelia, c'est la femme, Amelia Scagliotti, par Claudia Paleschi.
Et puis,
il y a vous. Et puis, voilà, on a fait le tour. On va dire que le metteur en scène s'appelle Julien Rouquette, que le directeur musical, c'est John Florencio. Florencio, je le dis avec l'accent. Et la chorégraphe, Amélie Foubert. J'ai oublié personne. Et tout ça au Théâtre des Mathurins. Comment on fait rentrer une tour Eiffel de 300 mètres de haut dans une salle de spectacle? Elle sera, j'imagine, en fond, dans le décor.
On verra si on la voit sur scène, mais on l'a fait surtout rentrer par tous ces personnages qui vont raconter son histoire, tous ces personnages qui ont gravité autour de la construction du monument. Donc Gustave Eiffel, qui l'a construite, mais aussi les autres personnages qui ont aidé à sa construction. Donc il y a les ouvriers, il y a les ingénieurs, et puis aussi ceux qui se sont opposés à sa construction, parce qu'en fait,
il a pas fait Gustave Eiffel que des fans au début.
C'est un vrai pari, et il a eu beaucoup d'obstacles. Et on va voir quels sont ces obstacles qui se sont opposés à sa construction pendant
donc,
le spectacle.
Donc si j'ai bien compris, ça démarre au projet, et ça se termine.
Ça se termine
à l'inauguration.
Non, ça se termine un peu après, ça se termine au moment où on est à peu près sûr que la Tour Eiffel va rester. Parce qu'au départ, c'était pas un monument qui était construit pour rester.
Oui.
Elle devait rester 20 ans. Et son avenir était totalement incertain après ces 20 ans. Et donc, on explique aussi quand même un peu pourquoi la Tour Eiffel est toujours debout 130 ans après.
Donc ça va, on sait à peu près tout. On fait vraiment un tour complet de l'histoire. Est-ce qu'il y a des petites histoires parallèles inventées pour ce spectacle ?
Il y a des petites histoires un peu romancées pour ce spectacle, mais elles sont toutes inspirées de faits réels.
D'accord. Donc une belle documentation. Ça s'appelle La Tour de 300 mètres. Donc c'est une comédie musicale. Quelle sera l'ambiance musicale ? On va en parler dans un instant. À partir de quel document travaille-t-on sur l'histoire de la Tour Eiffel ? Je voulais juste quand même une question. Qui est-ce qui a eu cette idée au départ de faire un spectacle, une comédie musicale sur la Tour Eiffel ? C'est une personne, c'est plusieurs, ce sont des rencontres.
C'est
vous ?
Moi.
Ah, c'est vous. Bon, voilà. D'accord. Et on vous a suivi.
On m'a suivi. Je remercie toutes les personnes qui m'ont suivi, d'ailleurs.
On parlera du temps qu'il a fallu pour que ce projet aboutisse. J'imagine que ça s'est pas fait en deux jours. Alors, on va continuer à parler de tout ça dans France Bleu Paris Découverte, et ce sera juste après une autre petite balade qu'on fait nous quotidiennement dans un lieu toujours inédit. Notre guide aujourd'hui, c'est Héloïse Erignac. Et dans Accès Privé, elle poursuit sa visite des réserves de la Cinémathèque française. On est dans le quartier de Bercy et on va découvrir toutes ces merveilles juste après ça.
France Bleu Paris.
France Bleu. J'ai les souvenirs qui toussent et la mémoire qui bégaye. Le temps a filé en douce sans m'en parler. Et j'ai beau faire au mieux, j'ai beau sans cesse essayer. Ce que j'ai vu de mes yeux s'est délavé. Toi le rire de mon enfance, toi l'odeur de mon école, toi mon amour perdu d'avance, j'ai peur que tu t'envoles. Allez reste encore un peu, toi et moi devenir vieux. Allez reste encore un peu, toi et moi faire au mieux. Allez reste encore un peu, toi et moi devenir vieux. Allez reste encore un peu, toi et moi faire au mieux.
des éléphants, me voilà devenu moineau. On ne dompte pas le temps, ce drôle d'oiseau. On égare les valises qui gardent nos moments et se vident nos remises à pas de géant. Toi le rire de mon enfance, toi l'odeur de mon école, toi mon amour perdu d'avance, j'ai peur que tu t'envoles. Allez reste encore un peu, toi et moi devenir vieux. Allez reste encore un peu, toi et moi faire au mieux. Allez reste encore un peu, toi et moi devenir vieux. Allez reste encore un peu. Toi et moi, faire au mieux. Allez reste encore un peu, toi et moi devenir vieux. Allez reste encore un peu, toi et moi faire au mieux. Allez reste encore un peu, toi et moi devenir vieux. Allez reste encore un peu, toi et moi faire au mieux. Allez reste encore un peu, toi et moi devenir vieux. Allez reste encore un peu, toi et moi faire au mieux. Allez reste encore un peu, toi et moi devenir mieux. Allez reste encore un peu. Toi et moi, faire au mieux.
Allez reste, la nouvelle chanson de Boulevard Désert. Ils seront le mercredi prochain 20 mars à l'Olympia. Et puis le 21 mars, vous irez à la première de la Tour de 300 mètres. Qu'on continue à en parler. Ce sera juste après Accès Privé.
12h-13h, France Bleu Découverte. Vous ne verrez plus Paris comme avant.
France Bleu. Vivez une saison 100% PSG sur France Bleu.
Il va avoir un drôle de goût, ce classique du championnat dimanche pour la 29e journée de Ligue 1. Le PSG, qui est encore dans un sale état après l'accident en Ligue des Champions, accueille l'OM. Coup d'envoi, 21h.
France Bleu, supporter du PSG.
France Bleu Paris.
Midi 27, vous écoutez France Bleu Paris, c'est l'heure de retrouver Accès Privé, Héloïse Erignac. Les réserves de la Cinémathèque française, fondée par Henri Langlois, abritent 40 000 films, des milliers de documents, d'objets liés évidemment au cinéma, plus de 6 000 machines, caméras, projecteurs, lanternes magiques et autres objets, retraçant jusqu'à l'origine l'histoire de l'image animée. Alors Héloïse Erignac, les visites avec Laurent Manoni, directeur scientifique du patrimoine de la Cinémathèque française, écoutez plutôt.
Vous avez une chambre noire aux armes de George III d'Angleterre, vers 1730. Vous avez le cinématographe Lumière, l'exemplaire numéro 1 de 1895. Et puis le projecteur de Georges Méliès, la caméra de Georges Méliès, voilà, qui date de 1896 et qui sont deux pièces uniques en fait.
On est dans le sein du sein là, hein ?
Voilà, là, ces deux pièces, c'est un peu les plus belles pièces de la collection et sous l'occupation. La cinémathèque a été pillée par les nazis et la caméra de Méliès se trouvait par terre. Et donc quand les nazis sont arrivés, ils ont tout emporté sauf la caméra. Et Langlois, il y a une très belle lettre de Langlois qui dit qu'ils ont tout emporté sauf la caméra parce qu'ils ont trouvé cette caisse en bois et ils ont dit qu'ils n'ont aucun intérêt, on va la laisser là. Quoi. Et par miracle, elle est là, quoi, alors que le reste a disparu. Donc elle a traversé comme ça toutes les péripéties extraordinaires.
Ce qui est impressionnant ici, c'est qu'on voit les objets. En fait, je ne m'attendais pas à voir directement autant de caméras, je m'attendais à ce qu'elles soient emballées.
Oui, alors en fait, ici, on reçoit pas mal de chercheurs et donc on prête beaucoup. On fait beaucoup d'expositions à l'étranger, on prête énormément. On a la chance aussi d'avoir beaucoup de donateurs. Donc tout d'un coup, quand il y a une collection qui arrive, eh bien, on est obligé de faire bouger des choses pour pouvoir ranger, etc. Par exemple, récemment, on a reçu des pièces des États-Unis absolument fabuleuses, des caméras Panavision, des caméras très professionnelles. Et puis une caméra historique, c'est la caméra de qui a servi au tournage de Titanic. De James Cameron,
une caméra amphibie.
Exactement, voilà, évidemment une caméra historique parce qu'il n'y en a eu que deux. Donc ça c'est une caméra tout à fait magnifique. Ça c'est ce qu'on appelle le Todd AO, c'est ce qu'on a fait de mieux en matière de projection en 70 mm qui est le format le plus large du cinéma. Et ce sont des appareils qui fonctionnent encore magnifiquement. mais c'est l'appareil aussi le plus lourd. Il fait, vous voyez, plus de 2 mètres. Il pèse entre 800 et 1000 kilos. Donc nous, on est très heureux de pouvoir les collectionner parce que c'est vraiment comme si on nous donnait des Rolls-Royce. Mais voilà, c'est quelque chose qu'il faut démonter à chaque fois d'une façon très délicate. Mais ce qui est intéressant par rapport aux jeunes générations qui ont oublié déjà ou qui n'ont pas connu cette période du film et de l'argentique, c'est d'imaginer la technique qu'il faut pour, par exemple, hisser tout en haut le film 70 mm.
On peut voir une bobine.
Voilà, je vous laisse la soupeser.
Oh, c'est lourd. Voilà, mais en plus, ça taille les doigts, ça fait très mal.
Il va falloir la mettre.
Oui, bien sûr. Vous d'abord. C'est la bobine de quel film ?
My Fair Lady, qui a été tourné en 70. C'est un film absolument splendide. Le problème de My Fair Lady, c'est que c'est un film qui dure plus de 2 heures, presque 3 heures. Donc il faut une quantité de bobines de cette taille, de ce poids.
Combien de bobines ?
Oui, il en faut au moins une dizaine comme ça, voilà. Donc il faut être toujours derrière le projecteur. En général, ils étaient montés en batterie pour pouvoir passer d'un poste à l'autre. Alors c'est souvent, ce sont des petits trous de perforation ou des petites croix, etc. C'est l'indication qui permet au projectionniste de savoir qu'il est à la fin de la bobine, de façon à pouvoir commencer à démarrer l'autre, sur l'autre poste de projection, et de faire un fondu enchaîné entre les deux machines. Très important.
I could have danced all night. I could have danced all night.
Le musée de la Cinémathèque française, situé à Paris, rue de Bercy. Alors en ce moment, il y a le festival Toute la mémoire du monde 2019. C'est jusqu'au 17 mars, donc profitez-en, et bah oui, c'est jusqu'à dimanche, avec des dizaines de projections de chefs-d'œuvre du cinéma en version originale. Merci Héloïse Erignac, et à lundi.
France Bleu Paris, découverte. Laurent Petit-Guillaume.
Midi et demi, si vous nous rejoignez, vous écoutez France Bleu Paris Découverte. Nous sommes aujourd'hui avec Gustave Eiffel. Eh oui, rien que ça. Il chante dans le spectacle La Tour de 300 mètres. Ça mérite une petite explication. Si vous n'étiez pas avec nous il y a quelques minutes, à partir de la semaine prochaine, 21 mars donc, au Théâtre des Mathurins dans le 8e arrondissement, vous pourrez découvrir un spectacle musical racontant l'histoire de la Tour Eiffel. Et donc, nous sommes avec le comédien qui endossera le costume de Gustave Eiffel, David Eguren, et à ses côtés, celui qui a composé, écrit ce spectacle, Marc de Rennes, et qui en a eu l'idée, tout seul comme un grand. Oui, Marc, oui, vous êtes là. Vous avez eu l'idée, tout seul comme un grand. Un jour, vous vous êtes dit, bah tiens, pourquoi pas, pourquoi que j'écrirais pas une comédie musicale sur la Tour Eiffel ? Bon, c'était il y a combien de temps, Marc ? Ah, je ne vous entends plus. Hop, là, on va appuyer sur le bouton. C'était quand ?
C'était il y a presque 3 ans.
Ah, ça a été vite quand même. Donc vous aviez déjà une idée de l'histoire, bon, on la connaît toute l'histoire, mais vous aviez déjà une idée des musiques, des chansons, ou c'était vraiment si je m'y mettais ?
Non, c'était plutôt si je m'y mettais, et c'est vraiment le livret que j'ai écrit en premier, et après la musique, elle est venue se poser sur le livret.
C'est un parcours du combattant, parce que je crois que c'est la première fois que vous réalisez un spectacle, que vous composez, que vous avez l'idée d'un spectacle. À côté, vous êtes médecin anesthésiste, dans Paris, et donc ils se partagent en deux. Ça a été dur de convaincre des producteurs, des comédiens, des chanteurs, un théâtre.
Ça c'est fait. On a fait en fait une première version de la pièce l'année dernière, à la Comédie Bastille.
Vous l'avez présentée et là vous avez réussi à séduire les gens qui veulent.
Une première version qui était un peu différente de celle qu'on va présenter. Et voilà, les retours ont été bons, donc on était contents.
Alors ce qui tombe bien, c'est que cette année, nous fêtons les 130 ans de la Tour Eiffel. Et il y aura notamment, je crois, un lien vraiment fort entre votre spectacle et la Tour Eiffel. Et notamment, qu'est-ce qui va se passer le 30-31 mars prochain pour les 130 ans de la Tour Eiffel ?
Alors, la Tour Eiffel, elle a été inaugurée le 31 mars 1889. Donc la fin du mois, on va vraiment être dans le 130e anniversaire de la tour. Et pour cette occasion, on a créé un petit jeu de pistes sur la tour Eiffel, comme un petit escape game. Et ce jeu va être lancé le week-end du 30 et du 31 mars sur la tour Eiffel.
Ouais.
Et à cette occasion, nos comédiens seront présents sur le monument pour lancer le jeu et participer et comment, interagir
comment,
avec le public.
Comment on peut s'inscrire ? Il y a un site, il faut aller sur le site de la Tour Eiffel ?
Il faut juste prendre son billet pour la Tour Eiffel le 30 et le 31 mars.
D'accord, voilà. Bah pourquoi pas. Est-ce que vous êtes allé voir cette Tour Eiffel pour vous préparer tous les deux ? J'imagine que vous la connaissez par cœur, Marc.
Oui, en fait, avant de me plonger dans l'écriture du spectacle, j'étais pas retourné depuis ma jeunesse à la Tour Eiffel.
D'accord. Et alors? C'est la même.
Et alors, voilà.
Elle n'a pas changé.
Évidemment, comme vous avez écrit des chansons, moi, je voulais savoir ce qui vous a inspiré. Quelles sont vos sources d'inspiration? Quel style musical vous avez voulu donner à cette aventure?
Le style musical, c'est essentiellement un style de comédie musicale. Donc, c'est un peu le style Broadway, on va dire. Et j'ai essayé quand même de distiller un peu le style des musiques qu'on entendait au 19e siècle. Donc, notamment des valses. Il y a pas mal de valses parce que c'était la danse courante.
Et le French Cancan d'ailleurs à l'époque, si je puis me permettre.
Et le French Cancan qui est né effectivement vraiment à la fin.
Oui, alors, c'est vrai que le French Cancan dominait la musique et les soirées parisiennes à l'époque de la Tour Eiffel. Est-ce qu'il y aura des musiciens sur scène?
On a un pianiste qui accompagne le spectacle, qui sera dans la salle.
D'accord. David Aiguren, vous composez le personnage de Gustave Eiffel. Est-ce que vous avez fait des recherches particulières pour connaître mieux cet homme?
Ah oui, évidemment. Évidemment, je me suis documenté sur le personnage, qui il était, quelle a été sa vie, Alors après, effectivement, quand on fait des recherches sur Gustave Eiffel, on a très rapidement, tout se centralise beaucoup sur la Tour Eiffel.
Oui, mais justement, je voulais savoir qui c'était vraiment avant et puis après, quoi, pourquoi pas.
Ah bah ça a été un homme qui a vraiment mis en pratique une façon de travailler très particulière. La Tour Eiffel a été construite très rapidement parce qu'il y avait une méthode de travail qui était très très pointue. Mm-hmm. Chacun faisait une petite partie du travail. C'est pour ça un petit peu qu'on l'a appelé après le magicien du fer. C'est que chacun faisait une partie du travail sans forcément connaître l'autre partie du travail de l'autre. Et du coup, toutes ces personnes faisant leur travail chacun à leur tour. Mis bout à bout, ça faisait des éléments gigantesques.
Oui, parce qu'il n'est pas tout seul à avoir dessiné la Tour Eiffel. Je crois qu'ils étaient trois en fait.
Alors au départ, oui, au départ, lui n'était pas vraiment chaud pour faire une Tour Eiffel. Ça lui paraissait une idée un peu saugrenue. Et c'est Nouguier et Coquelin qui sont deux ingénieurs qui ont travaillé pour lui, qui ont eu ce rêve de construire une tour de 300 mètres. Au départ, lui, il y croyait pas trop.
Mmh. Voilà. Est-ce que vous avez l'impression que c'était quelqu'un d'extrêmement un peu fou furieux ou quelqu'un au contraire de très concentré, un ingénieur précis, dessinateur, quelqu'un d'assez rigide, quoi, je veux dire, dans son travail, pour avoir fait autant de choses dans sa carrière?
C'était plutôt un homme d'affaires et un industriel. Il n'avait pas forcément une âme d'artiste. Et justement, c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup d'artistes qui ont été contre lui, c'est que lui était plutôt dans une logique industrielle et une logique d'expérience scientifique.
Ouais,
Et tous les artistes se sont beaucoup d'artistes se sont ligués contre lui à l'époque en disant mais c'est pas possible, on peut pas construire un pylône en plein milieu de Paris.
Bon, bah si. Cela dit, vous nous disiez tout à l'heure, effectivement, ça devait être un monument éphémère. Pourquoi est-ce que finalement on a sauvé la Tour Eiffel? Pourquoi est-ce que finalement on la voit toujours d'ici d'ailleurs, puisqu'on est juste en face?
Il y a une chose qui a sauvé la Tour Eiffel, c'est ce qu'on raconte un peu à la fin du spectacle, c'est la télégraphie sans fil. La télégraphie était en expérimentation et pour pouvoir émettre des ondes, il faut mettre son émetteur le plus haut possible.
Oui.
Et il y a eu un poste de télégraphie qui a été mis avant la Première Guerre mondiale au-dessus de la Tour Eiffel. Et ce poste a été d'une très grande aide pour le ministère de la guerre, il s'appelait comme ça à l'époque, pendant la Première Guerre mondiale. Et ça a sauvé la Tour Eiffel qui a trouvé son utilité.
Et la radiodiffusion depuis. À qui s'adresse ce spectacle, cette comédie musicale sur la Tour Eiffel, selon vous?
Ça s'adresse à tous les amoureux de Paris, à tous les amoureux de la Tour Eiffel. On apprend des choses de façon ludique, donc ça s'adresse aussi aux enfants. Je pense vraiment qu'à partir de 8-10 ans, on peut tout à fait venir assister à ce spectacle sans problème.
Et si on est bilingue aussi?
Et si on est bilingue aussi, parce que
c'est important de dire qu'il y aura des sous-titres ou des surtitres, je ne sais pas comment ça fonctionne, mais généralement c'est un petit écran au-dessus de la scène,
exactement,
hein, c'est ça,
oui.
Pour ceux qui ne parlent pas français, ce sera en anglais.
Ce sera en anglais, exactement.
Bon, vive les touristes qui viendront visiter la Tour Eiffel et qui le soir iront bien évidemment, le soir, à 19h du jeudi au samedi au Théâtre des Mathurins, et le dimanche c'est à 17h, ça s'appelle la Tour de 300 mètres et c'est à partir du 21 mars, donc la semaine prochaine au Théâtre des Mathurins. Alors, comment comment devient-on un pro de la comédie musicale? Ça, je m'adresse aux comédiens, on va le savoir dans quelques instants. Et puis, est-ce que c'est un peu fou de monter un tel projet? Non, je crois qu'on a bien compris qu'il faut un peu de folie pour le faire, mais heureusement, c'est une folie saine et qui aboutit, mais ça, c'est l'histoire de Marc de Rennes et de David Eguren qu'on retrouve juste après ça.
France Bleu Paris. France Bleu.
Take a breath, rest your head, close your eyes, you are right. Just lay down to my side. Do you feel my heat on your skin? Take off your clothes, blow up the fire. Don't be so shy, you're right, you're right. Take off my clothes, oh bless me Father. Don't ask me why, you're right. Hold my step, I'm in command. Can you feel my hips in your hands? And I'm laying down by your side. I taste the sweet of your skin. Take off your clothes, blow up the fire. Don't be so shy, you're right, you're right. Take off my clothes, oh bless me Father. Don't ask me why. Smile. Do you feel my heat on my skin? Take off your clothes, blow up the fire. Don't be so shy, you're right, you're right. Take off my clothes, oh bless me Father. Don't ask me why, you're right, you're right. Take off my clothes, blow up the fire. Don't be so shy, you're right. Take off my clothes and bless me further. Don't ask me why, don't ask me why, don't ask me why.
Don't be so shy, c'était Imani sur France Bleu Paris. France Bleu.
Chaque région a ses spécialités, tout en leur France Bleu. Une heure en France.
Nous passons un moment avec l'aventurier Jean-Loup Etienne. Ensuite, nous réservons à l'hôtel littéraire de Clermont-Ferrand. Et enfin, on s'intéresse au rugby féminin avec une capitaine d'équipe et consultante télé.
Frédéric Le Ternier, Denis Farou, une heure en France sur France Bleu, dès 13h.
France Bleu Paris.
À l'époque, à ses débuts, elle n'a pas fait l'unanimité. Ses détracteurs la surnommaient le suppositoire solitaire. Son bâtisseur est rentré dans l'histoire, évidemment. Elle porte son nom, la Tour Eiffel. À l'origine, il fallait affronter 1792 marches pour atteindre son sommet, un nombre pas choisi au hasard, l'année de la proclamation de la République en France. Bon, bah voilà, vous en apprendrez beaucoup, beaucoup plus en allant dès la semaine prochaine découvrir ce spectacle musical qui raconte l'histoire de la Tour Eiffel, la Tour de 300 mètres, à partir du 21 mars. Et nous sommes toujours avec David Eguren qui joue Gustave Eiffel et le compositeur, auteur, initiateur de ce projet complètement dingue, Marc de Rennes. Et il a bien fait d'être dingue parce que, bah voilà, on va découvrir cette belle tour métallique que parfois on regarde sans la regarder. Elle est tellement familière. Elle s'est beau la nuit, évidemment, quand elle s'illumine. Mm-hmm. Mais c'est quand même bien d'en connaître son histoire complète. Est-ce que vous savez tous les deux si l'arrière-arrière-petit-fils de Gustave viendra vous voir?
On a On a de la famille Eiffel qui sera présente pour la première du spectacle le 21 mars au Théâtre des Mathurins.
Vous les avez rencontrés ?
Je les ai rencontrés. Ils sont venus voir la première version du spectacle l'année dernière, qu'ils ont appréciée. Et donc, ils viendront encore plus nombreux pour la première du spectacle.
Elle est grande encore, la famille Eiffel ? Oui, j'imagine.
Bah, elle est très grande. Ouais.
Donc, grande famille. Mais quand,
Gustave Eiffel a eu 5 enfants. Et ils ont chacun eu plein d'enfants.
Plein d'enfants. Quand vous écrivez ce projet devant votre ordinateur, est-ce que vous vous dites il faut quand même que ça soit validé par la famille ? Est-ce qu'il faut respecter des choses ou non, pas vraiment. Ça a été validé quand vous l'avez présenté, quoi.
Voilà, et puis il y a eu beaucoup de choses qui ont été écrites sur Gustave Eiffel. Après, ouais, le projet, de toute façon, est fidèle à l'histoire.
Vous avez tout lu, tout vu, tout entendu, tout écouté.
J'ai beaucoup lu. Ouais.
Vous connaissez tout sur la tour Eiffel. Elle était de quelle couleur quand elle a été inaugurée à la fin du 19e ?
Elle était rouge, d'un rouge un peu bordeaux.
C'est fou ça, elle a été repeinte je crois 9 fois.
Elle a eu plusieurs couleurs, elle a été jaune par la suite.
Elle a été jaune par la suite. Et aujourd'hui elle s'illumine le soir. Il y a quelque chose vraiment qui vous a surpris quand vous avez fait vos recherches? Est-ce que vous gardez une anecdote comme ça très très surprenante que vous avez découvert? Vous en avez découvert beaucoup. Hein. Je vous laisse une demi-journée de réflexion. Dans ces cas-là, quand on écrit un spectacle, dites-nous tout. On l'écrit chez soi, on imagine tout et on va voir qui en premier.
On écrit chez soi et puis on va voir c'est des comédiens que j'allais voir en premier parce que je voulais que les comédiens lisent le texte et avoir leur ressenti.
D'accord. Vous deux, vous êtes fan de comédie musicale depuis très longtemps, j'imagine. C'est né comment pour vous, Marc?
Alors pour moi,
je m'adresse à vous en vous appelant Marc. Oui, c'est de la radio, on voit pas mon coup d'œil. David Aguirre.
Pour moi, la comédie musicale, en fait, ça a été quelque chose d'assez inné, j'ai envie de dire. J'ai toujours voulu être comédien depuis mes 3 ans, je pense. Et en fait, quand j'étais petit, j'avais envie de créer des spectacles dans lesquels on parlait, on chantait, on dansait. Et ce qui se faisait pas énormément en France à cette époque-là. Et puis un jour, je me suis retrouvé à Londres et je me suis dit, mais ça existe en fait.
Bah, attendez, vous avez l'air quand même très jeune. Il y a des comédies musicales depuis Starmania. Starmania, c'était en 79. Hein, vous n'étiez pas né.
Starmania, c'était en 79. J'étais né en 79. Bon, j'étais né en 79, mais c'est vrai que Starmania, je ne l'ai connu que plus tard en fait.
Comme beaucoup.
En 79, j'ai pas du tout eu.
Mais ça n'a été joué que 33 fois et nous serons avec Fabienne Thibault qui vient d'écrire un livre sur les 40 ans de Starmania. On y découvre évidemment tous les secrets. Là aussi, c'est une histoire.
Il y a des choses incroyables.
Dingue. On a beaucoup, beaucoup entendu parler de Starmania après, évidemment. Ouais.
Et moi, en fait, moi, j'ai d'abord été comédien. J'ai joué dans beaucoup de pièces de théâtre classiques, du Marivaux, Shakespeare, etc. Et puis, avec ce goût pour le spectacle musical, j'ai passé les auditions pour Le Roi Lion il y a quelques années et j'ai été pris sur Le Roi Lion. Et c'est à ce moment-là que il y a eu vraiment un basculement de ma carrière, j'allais dire, du théâtre à la comédie musicale. J'aimerais beaucoup revenir au théâtre un petit peu.
On peut faire les deux.
Mais c'est vrai qu'en France, c'est un petit peu compliqué parfois. Mais voilà, après, c'est toujours un grand plaisir, effectivement, de jouer dans une comédie musicale ou de mettre en scène des comédies musicales. Mais quelque chose d'un peu inné, en fait, envie de dire chez moi.
Et puis, il faut savoir chanter. Marc Derenne, je ne sais pas si vous aviez envie de chanter quand vous étiez petit, mais vous êtes tombé dans la comédie musicale à cause de qui, à cause de quoi?
Moi, j'ai fait beaucoup de musique quand j'étais petit, mais plutôt de la musique classique. Et quand j'étais ado, j'ai fait un voyage à New York. J'ai vu des comédies musicales à Broadway.
Laquelle?
Ma toute première comédie musicale, c'était une petite comédie musicale qui s'appelle The Fantastics.
D'accord.
Qui est une petite comédie musicale de chambre avec 4 comédiens sur scène. Très charmante. Et c'est la première fois que je voyais vraiment une symbiose entre le théâtre et la musique, où la musique suit vraiment l'action du livret. Et ça m'a donné envie d'y retourner.
Bon, alors je rassure tous les parents, les grands-parents qui nous écoutent. Voyez, si vous avez un enfant ou un petit-enfant qui rêve d'être comédien, de faire de la musique, d'écrire des spectacles, n'hésitez pas. Il peut faire des études très sérieuses, comme vous, Marc, puisque je rappelle que vous êtes également médecin anesthésiste. Mais il peut aussi, en parallèle, apprendre la musique, jouer, composer, écrire, et pourquoi pas se lancer sur une scène. Vous avez quelle formation, David?
Moi, j'ai fait des études cinéma audiovisuel. Donc, j'ai vraiment tout de suite été dans l'artistique.
Dans l'artistique. Est-ce que Paris est devenu une capitale de la comédie musicale ? Je veux votre avis à tous les deux. Il y a quelques spectacles cette année, il y en a eu beaucoup, il y en a un petit peu moins. Heureusement que vous êtes là.
Oui, c'est vrai. Alors, il y a eu aussi beaucoup de spectacles qui ont malheureusement subi des gros échecs, qui n'étaient pas forcément des... Alors, on dit souvent, oui, c'est un spectacle, il est bon, il marche. Malheureusement, c'est pas forcément le cas. Du coup, les producteurs sont un petit peu plus frileux oui. Pour se lancer dans des comédies musicales. Après, moi, quand j'en parle avec des producteurs, je leur dis, il y a aussi des petits spectacles musicaux qui sont pas forcément des gros trucs au Palais des Congrès ou au Palais des Sports, mais des petits spectacles qui peuvent avoir des petites pépites et tirer leur épingle du jeu et grossir par la suite.
C'est ce qui va vous arriver. On vous le souhaite à partir du 21 mars, la tour de 300 mètres, comédie musicale à l'affiche du théâtre des Mathurins. C'est du jeudi au samedi à 19h, en matinée le dimanche à 17h. Des surtitres ou des sous-titres en anglais. Si vous avez des amis de passage, des touristes, c'est tout public. Alors allons-y. Merci Marc de Rennes, merci David Eguren d'être parlé, nous en parler par ici aujourd'hui. À bientôt.
Merci.
Merci à vous.
France Bleu Paris.